Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'analyse et de perspectives croisées. Alors imaginez un peu la scène. Il est 4 heures du matin, sous une pluie battante.
Une pluie de saison humide en plus.
C'est ça. Et des hommes et des femmes patientent devant une école. Certains ont été amputés d'un bras par les rebelles, mais ils sont là, prêts à glisser un bulletin de l'autre main avant de tremper leurs doigts dans l'encre indélébile. Nous sommes en Sierra Leone, en 2007.
Oui, c'est-à-dire 5 ans seulement après la fin d'une guerre civile, vraiment dévastatrice.
Exactement. Et pour la première fois, le pays organise seul son élection présidentielle et législative, totalement sans l'encadrement des casques bleus. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce scrutin marque le triomphe définitif d'une démocratie autonome ou est-ce que c'est juste un exercice institutionnel fragile menacé par des fractures profondes?
C'est toute la question.
Personnellement, j'y vois une résilience institutionnelle assez incroyable.
Alors, l'image est belle, je vous l'accorde, mais je suis plutôt prudente. Pour moi, elle masque une réalité beaucoup plus instable. J'y vois surtout une précarité systémique alarmante et de vrais risques de rechute pour le pays.
Ah mais l'organisation autonome du vote, elle prouve quand même une maturité politique indéniable, non? Enfin, la mission de l'ONU, l'UNAMSIL, a quitté le pays fin 2005. Et le président sortant, Ahmad Tejan Kaba, quitte le pouvoir après 2 mandats.
Dans le strict respect de la Constitution, oui.
Voilà, c'est une alternance programmée. Et avec cette image des électeurs amputés, qui votent dans le calme, ça montre bien une volonté irréversible de paix, en fait.
Bah, la logistique impressionne, c'est vrai. Mais c'est un peu comme installer un système d'alarme ultra moderne sur une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. L'élection semble parfaite, mais la structure sociale, elle, ne tient pas.
Vous trouvez le contraste si fort que ça?
C'est littéralement explosif. Le pays regorge de richesses immenses. Des diamants, bien sûr, mais aussi des minerais très lucratifs comme le rutile ou la bauxite. Et pourtant, la population vit dans un dénuement effroyable. En fait, plus de la moitié des habitants a moins de 20 ans et subit un chômage de masse. Donc, c'est une poudrière en attente, plutôt qu'un aboutissement pacifique.
Je comprends l'argument de la fragilité économique, mais le paysage politique témoigne quand même d'une transition réussie. On a une vraie compétition, Solomon Berewa, le favori du pouvoir, Ernest Bai Koroma pour l'opposition, et Charles Margaï, qui bouscule les lignes comme dissident. D'ailleurs, est-ce que la validation du calme électoral par l'Union européenne et l'Union africaine n'est pas la preuve définitive que le pays a remplacé la loi des armes par celle des urnes?
Les observateurs valident le calme de la journée, absolument. Mais le vrai danger, il se cache pas forcément dans les bureaux de vote, en fait. Il est dans la mécanique même de la Constitution. Le seuil requis pour une victoire au premier tour est fixé à 55%.
Oui, c'est très élevé.
C'est extrêmement élevé, et c'est ça le danger.
En quoi est-ce un danger? Au contraire, c'est plutôt un gage de légitimité solide pour le vainqueur.
Bah, parce que ça rend un second tour quasi inévitable. Et un second tour dans un contexte post-conflit, c'est prolonger une période d'incertitude insoutenable. Ça laisse le temps aux factions de se remobiliser, ça force des alliances politiques contre nature, et ça exacerbe la méfiance. L'attente devient une arme.
C'est un risque, oui. Mais la tension était quand même remarquablement contenue le jour du vote, même à Freetown, dans l'obscurité totale des coupures de courant. En fait, je pense que l'héritage des diamants du sang agit comme un garde-fou.
Un garde-fou.
Oui, ce conflit entre 1991 et 2002 a laissé des cicatrices si profondes, les villages incendiés, les enfants soldats, que la mémoire de ces horreurs pèse trop lourd contre toute tentation de violence. D'ailleurs, le tribunal spécial jugeait encore certains responsables pendant que les gens votaient.
Alors, la mémoire est un frein, je vous l'accorde tout à fait. Mais la faim et le chômage, ce sont des moteurs immédiats. Les jeunes électeurs n'attendent pas seulement la paix, ils exigent des résultats économiques tangibles.
C'est indéniable.
De guerre.
Une tâche immense, oui.
Elle a la tâche redoutable de faire accepter des décomptes à des états-majors qui sont déjà tous convaincus de leur victoire. Le poids sociologique sur les épaules de cette seule femme est colossal.
Nous voici donc avec un tableau extrêmement complexe. D'un côté, on a une victoire symbolique et logistique de l'autonomie électorale, ce qui est déjà énorme.
Et de l'autre, le défi monumental de répondre à une jeunesse qui pourrait très vite basculer dans la colère si les promesses économiques ne suivent pas.
Le véritable test démocratique de la Sierra Leone ne réside donc pas seulement dans le fait d'avoir voté dans le calme. Il est surtout dans la capacité des camps adverses à accepter pacifiquement le verdict de cette commission électorale.
Tout à fait.
À vous, chers auditeurs, d'en tirer vos propres conclusions sur la viabilité de cette démocratie convalescente. À très bientôt pour continuer le débat.